Se graba para el archivo de la palabra de LR11, Radio Universidad Nacional de La Plata, de un disco festival editado en París en 1955 por la Academia de Charles Cros, dos párrafos leídos por el escritor Antoine de Saint-Exupéry. Escuchemos ya Tierra de Hombres, prefacio.
Nulle aventure n'est plus pathétique que celle de Guillaumet, prisonnier de la tempête au cœur de la cordillère des Andes. Depuis 50 heures, il a disparu.
Tu avais disparu depuis 50 heures, en hiver, au cours d'une traversée des Andes. Rentrant du fond de la Patagonie, je rejoignis le pilote Delay à Mendoza. L'un et l'autre, 5 jours durant, nous fouillâmes en avion cet amoncellement de montagnes, mais sans rien découvrir. Nos deux appareils ne suffisaient guère. Il nous semblait que 100 escadrilles, naviguant pendant 100 années, n'eussent pas achevé d'explorer cet énorme massif dont les crêtes s'élèvent jusqu'à 7000 mètres. Nous avions perdu tout espoir. Enfin, au cours du 7e jour, tandis que je déjeunais entre 2 traversées dans un restaurant de Mendoza, un homme poussa la porte et cria « Oh, peu de choses !»« Guillaumet vivant !» Et tous les inconnus qui se trouvaient là s'embrassèrent. Plus tard, tu nous racontas l'accident. Boxeur, vainqueur, mais marqué des grands coups reçus, tu revivais ton étrange aventure. Et tu t'en délivrais par bribes. Et je t'apercevais au cours de ton récit nocturne, marchant sans piolet, sans cordes, sans vivres, escaladant des cols de 4500 mètres ou progressant le long de parois verticales, saignant des pieds, des genoux et des mains par 40 degrés de froid. Vidé peu à peu de ton sang, de tes forces, de ta raison, tu avançais avec un entêtement de fourmi, revenant sur tes pas pour contourner l'obstacle, te relevant après les chutes ou remontant celles des pentes qui n'aboutissaient qu'à l'abîme, ne t'accordant enfin aucun repos, car tu ne te serais pas relevé du lit de neige. Et en effet, quand tu glissais, tu devais te redresser vite, afin de n'être point changé en pierre. Le froid te pétrifiait de seconde en seconde, et pour avoir goûté après la chute une minute de repos de trop, tu devais faire jouer pour te relever des muscles morts. Tu résistais aux tentations. Dans la neige, me disais-tu, on perd tout instinct de conservation. Après 2, 3, 4 jours de marche, on ne souhaite plus que le sommeil. Je le souhaitais. Mais je me disais, ma femme, si elle croit que je vis, croit que je marche. Les camarades croient que je marche, ils ont tous confiance en moi, et je suis un salaud si je ne marche pas. Et tu marchais. Et de la pointe du canif, tu entamais chaque jour un peu plus les chancrures de tes souliers pour que tes pieds, qui gelaient et gonflaient, y puissent tenir. Tu m'as fait cette étrange confidence. Dès le second jour, vois-tu, mon plus gros travail fut de m'empêcher de penser. Je souffrais trop, et ma situation était par trop désespérée. Pour avoir le courage de marcher, je ne devais pas la considérer. Malheureusement, je contrôlais mal mon cerveau. Il travaillait comme une turbine. Mais je pouvais lui choisir entre ses images. Je l'emballais sur un film, sur un livre. Mais le livre ou le film défilait en moi à toute allure. Puis ça me ramenait à ma situation présente, alors je le lançais sur d'autres souvenirs. Une fois seulement, ayant glissé, allongé à plat ventre dans la neige, tu renonças à te relever. Tu étais semblable au boxeur qui, vidé d'un coup de toute passion, entend les secondes tomber une à une dans un univers étranger, jusqu'à la 10e qui est sans appel.